Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non, avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée, alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis Holypreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'holyprenariat. C'est décidé, j'arrête d'être seule. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine avec le podcast Holypreneur. Cette semaine, j'ouvre la thématique de la communauté, du soutien, de l'entraide, de la coopération, de la délégation, de la co-création. Toutes ces thématiques qui font que nous sommes ensemble. Et l'une des principales difficultés que je rencontre auprès des chefs d'entreprise que j'accompagne et que je vis moi-même, hein, clairement, c'est la solitude. La solitude du chef d'entreprise. On a l'impression que c'est un bloc, quoi. La solitude du chef d'entreprise, c'est quelque chose qui existe en tant que tel, c'est une entité à part entière. Alors oui, être chef d'entreprise, c'est une posture solitaire. C'est une décision aussi de liberté. Avec la liberté, il y a une part de solitude qui rentre en ligne de compte vu qu'on est seul décisionnaire de ce qu'on va faire de nos vies, de notre activité, de nos services, de notre monde professionnel. Ça inclut une forme de solitude. Et j'ai même envie de pousser le curseur en disant même lorsqu'on est associé, il y a une forme de solitude. Moi, je l'ai été associée plusieurs fois. Et je l'ai observé que même si on a un projet commun, nous sommes des personnes différentes, avec des désirs différents et avec des objectifs et des intentions qui sont différentes. Et ça, c'est pas grave en soi, c'est au contraire ce qui fait la richesse de l'associé, enfin du fait d'être associé, quand tout ça est bien posé sur la table et qu'on est dans une grande communication. Mais on est toujours seul avec ces questionnements, on est toujours seul avec ce qu'on porte de soi dans l'entreprise. Peut-être même sur la rémunération, sur nos tâches, on a des tâches dédiées, et donc ces tâches, on doit les mener seules. Donc ça, oui, être chef d'entreprise, c'est une posture solitaire. Mais c'est pas une finalité, c'est pas une obligation. Et il existe mille et une manières de couper avec cette solitude du chef d'entreprise. Et je crois qu'on se l'autorise pas assez à aller explorer ces espaces-là, parfois parce qu'on se dit que bah justement on veut être seul et qu'on apprécie cette forme de solitude aussi, qui est un choix, hein, qui n'est pas un isolement. L'isolement et la solitude, c'est pas pareil. Le fait d'être seul, de travailler seul, de décider seul, d'entreprendre seul peut être un choix extrêmement joyeux. Mais on n'est pas obligé de se dire « parce que j'ai décidé de faire seul, je dois faire tout seul ». On peut embrasser le « et ». Je peux et aimer être seul dans mon activité, et aimer être seul décisionnaire, et aimer travailler seul, et pour autant, dans d'autres espaces, sur d'autres strates de mon activité professionnelle, avoir envie d'être en collaboration et d'être à deux, à trois, à plus. L'idée, c'est de sortir du vase clos. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est en solitude, choisi ou non, c'est que on se coupe de l'intelligence collective. Donc cette forme d'intelligence qui émane de la mise en commun de différentes intelligences, sensibilités, expériences, savoir-faire, point de vue. Donc on peut rester rapidement en vase clos avec soi-même. Les questionnements tournent en rond, les problématiques tournent en rond, les compétences ne peuvent pas se déployer plus que cela, et cela fait reposer une extrêmement forte pression sur nous-mêmes parce qu'on a besoin de tout faire tout seul. Seulement déjà, faire son métier et être chef d'entreprise, c'est déjà énorme. Parce que dans la posture de chef d'entreprise, il va y avoir le côté stratégique, visionnaire, il va y avoir le côté gestionnaire, comptabilité, financier, il va y avoir le côté communication, commercial, il va y avoir le côté gestion des ressources humaines, gestion de l'énergie, des plannings, des projets, enfin je vous fais la liste, elle est longue, mais tout ça, ça va dans la casquette de chef d'entreprise, donc c'est déjà énorme. Et en soi, chacun des domaines que je vous ai cités peut-être un métier à part entière. Il y a des gens dont c'est le métier, en fait, d'être juste gestionnaire, ou d'être juste responsable RH, ou d'être juste communicant. Et même dans ces grandes parties-là, il y a encore des sous-métiers qui sont experts de choses. Communication, communication digitale, communication print, communication visuelle, communication événementielle. C'est mon domaine, donc je le connais bien, mais... Voilà, le fait est que, déjà en tant que chef d'entreprise, on doit prendre énormément de casquettes. En plus de son cœur de métier, donc ce que l'on fait, les produits que l'on crée, les services que l'on offre, les formations que l'on donne, les accompagnements que l'on mène, tout ça en fait c'est notre métier et il y a encore la posture chef d'entreprise. Et quand on est dans cette solitude, eh ben on va avoir besoin de faire tout ça. Seulement, déjà tout, ce sont des expertises différentes et notre temps est compté sur cette planète. Alors, on ne peut pas faire des journées plus longues qu'elles ne le sont, et même si on les remplit de tout, finalement on se vide de nous. Donc la posture, elle n'est pas très oliprenariale dans ces cas-là. En coupant la posture de la solitude du chef d'entreprise, on va aller chercher l'intelligence du nous. Et il peut s'exprimer de mille et une façons. On n'est pas obligé de donner les rênes de son entreprise aux autres. Of course non, et vraiment je ne vous incite pas du tout à aller dans cette direction-là. Mais par contre d'explorer les espaces dans lesquels on peut co-créer. Un des premiers espaces, très simple, qui demande peu de pression sur notre activité, c'est par exemple trouver un endroit où coworker. Le coworking est assez récent, c'est le principe de mettre des indépendants ensemble pour travailler dans un espace commun et mutualiser des moyens et des ressources. Donc trouver un endroit où travailler en coopération avec d'autres, mais peut-être pas sur son cœur de métier, peut-être pas sur le fond de ce qu'on fait, mais simplement partager du temps de travail avec les autres. Et rien que ça, parfois on n'y pense pas, on ne s'autorise pas, ça peut être quelques jours par semaine, pas forcément à temps plein, ça peut complètement changer notre vibe entrepreneuriale. Déjà parce qu'on va rencontrer d'autres personnes, donc on va avoir une vie sociale en dehors de notre métier, on va rencontrer d'autres professionnels qui, même s'ils n'ont pas le même métier, vont avoir des problématiques proches. URSSAF, baisse de clientèle, augmentation de clientèle, planning de travail surchargé ou sous-chargé. Et tout ça, ça amène des discussions, des échanges, de la nutrition, de l'ouverture d'esprit, des discussions à la machine à café ou autour d'un tupperware au repas. Et en tout cas, ça nous permet d'ouvrir nos horizons. Vraiment. Ça peut être une solution pour nous permettre de commencer à rompre cette solitude-là et nous offrir de rencontrer l'autre. Et de cette rencontre, il peut émerger plein de choses. Il peut émerger simplement des échanges, il peut émerger des amitiés, il peut émerger la collaboration, des idées, de projets, de se rendre compte un petit peu de ce que les personnes traversent et donc défocuser notre... Défocuser en fait le fait de se dire que tout nous tombe dessus. Si on se rend compte que tous nos coworkers ont un problème de chiffre d'affaires en ce moment, bah c'est peut-être pas nous, c'est peut-être structurel, c'est peut-être systémique en fait. Ça nous permet vraiment de défocuser sur il n'y a que moi avec mes problèmes, je n'ai que ça à gérer. Et notamment quand on est entouré dans son milieu familial de personnes qui sont peut-être pas très soutenantes sur notre activité professionnelle, ou alors qui ne sont pas très... soutenante sur le fait qu'on soit à notre compte, voilà, qui sont pas dans ces problématiques-là, ça peut nous ouvrir un nouveau champ du possible, du soutien, de l'écoute et surtout de la résonance, du miroir, savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de vivre ça également. Et donc, c'est pas nous, c'est quelque chose de plus grand que nous et on a plus de paramètres pour arriver à comprendre des finesses de situation plutôt que de tout miser sur moi. Parce que la solitude du chef d'entreprise, c'est aussi extrêmement égocentrique, dans le sens où l'ego est replacé au centre. Moi, mon activité, mes clients, ma communication, ma communauté, mes objectifs, ma stratégie. Et souvent, ça tourne un peu en rond. Ça tourne un peu en rond et c'est pas nourri de différentes sensibilités, perspectives, richesses qui nous permettent de nous élever. Donc ça, ça peut être une première chose. Réfléchir à son cadre de travail, comment je peux créer un cadre de travail qui m'ouvre vers l'extérieur, qui me permet à la fois moi de donner aussi et de recevoir. On peut aussi réfléchir en termes de réseau. Est-ce qu'on est seul en train de faire ce qu'on est en train de faire? Ou est-ce qu'en fait il y a plein d'autres personnes qui font également seules ce qu'elles sont en train de faire et qu'on pourrait les mettre ensemble pour faire ensemble la même chose? C'est un peu l'idée du réseau. Alors ça peut être sur un point de vue commercial, mais je vous avoue que j'y crois pas trop. Je l'ai testé, moi ça fait plus de 13 ans que je suis entrepreneur et j'ai fait partie de réseaux d'entrepreneurs à des visées business, de recommandations, de prendre des petits déjeuners pour parler des activités des uns des autres, d'ouvrir les réseaux, tout ça. Ce qui m'a paru, c'est que ça manque fondamentalement de cœur, de fluidité, de flow, et en fait de vraiment être au contact de la médecine de l'autre. J'ai eu des réseaux dans lesquels on était censé faire des trocs, mais des fois c'était pas possible. J'étais dans un réseau, j'étais avec un comptable, je pouvais pas tester ça, je pouvais pas le tester en comptabilité, c'était pas possible. Je ne pouvais que croire ce qu'il me disait sur sa façon d'œuvrer. Et donc ces réseaux-là commerciaux, visiblement ça marche pour certaines personnes. Dans mon expérience, ça n'a pas été le cas, justement parce que je n'arrivais pas à recommander une personne que je n'avais pas vraiment testée et que je ne pouvais pas me porter garante pour elle. Parce que c'est ça le bouche à oreille et la recommandation. C'est quand on dit à quelqu'un tu devrais aller voir telle personne, on se porte garant pour cette personne. Donc c'est très impliquant. Si la personne à qui on a recommandé est déçue, c'est nous qui sommes impactés dans le jeu. Donc je parle pas forcément de mutualiser du commercial, mais mutualiser du savoir-faire. Un réseau qui s'est proche en compétences. Mutualiser des questionnements communs. Un réseau d'entrepreneurs, c'est des questionnements en commun qui sont posés, peu importe le métier, peu importe le savoir-faire. Des réseaux de centres d'intérêt communs ou d'objectifs de développement commun. Un réseau basé sur si on révolutionnait Internet, si on révolutionnait le commerce de proximité, si on révolutionnait, alors, je suis très révolution, mais il peut y avoir d'autres thématiques, ou si on ouvrait à un nouveau public le soin énergétique, je sais pas. En tout cas, d'avoir un réseau qui est basé sur le cœur, qui est basé sur l'envie d'être en présence d'autres personnes qui vibrent avec nos valeurs, qui sont dans un même soin de la clientèle, une même vision de l'entrepreneuriat peut-être, ou en tout cas des choses qui sont portées plus au niveau de l'être que du savoir-faire. Et ces réseaux-là nous permettent de, encore une fois, ouvrir nos horizons, mais aussi de co-créer, de collaborer, et de voir que seul on peut résoudre une petite problématique, ensemble on peut résoudre de grandes problématiques. Donc se mettre dans un espace de réseau, c'est s'offrir la possibilité d'impacter plus grand, et d'être aussi plus résilient. Parce que de la même façon dont j'évoquais le coworking, on peut avoir des personnes qui sont pas du tout dans notre domaine d'activité avec qui on partage un espace de travail et on utilise des moyens pour travailler, photocopieuse, internet, machine à café. Dans un réseau, on va mutualiser encore plus de proximité sur nos problématiques et on va permettre de mieux comprendre ce qui se passe, d'être plus aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, d'être plus conscient, plus résilient. Parce que aussi, on se place comme une cellule d'un grand corps et on se rend compte qu'on a besoin des autres corps pour pouvoir fonctionner et avancer. Et aussi que nous ne sommes pas la réponse à toutes les questions et qu'il y a d'autres personnes qui ont un autre bout de la réponse à cette question. Et ça, je trouve ça extrêmement relaxant pour notre système nerveux. De se dire qu'on n'a pas besoin de tout savoir, tout faire, tout comprendre, tout résoudre. Mais que chacun a un petit bout du puzzle et qu'ensemble on va réussir à avoir une carte qui est quand même pas mal, qui est quand même assez détaillée. Donc ça permet aussi de redescendre la pression sur les épaules du chef d'entreprise et ça peut amener à du commercial et à du recrutement de clientèle, mais quelque part dans un second temps, parce qu'on se sera placé en tant qu'être complet au centre de cette question. Donc ça, deuxième possibilité, le réseau à créer ou à rejoindre. Parfois, on se lance bien en tête dans se dire « je vais créer mon réseau de ». Peut-être qu'il y a des réseaux qui existent déjà, qui sont très bien. Et ça peut être une première phase de rentrer dans ces réseaux-là, de voir comment ça fonctionne, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, comment on pourrait faire les choses différemment, pour ensuite créer dans un temps 2, temps 3, temps 4, avec d'autres personnes. C'est possible aussi. Une autre façon aussi de couper avec cette solitude du chef d'entreprise, c'est la délégation. Est-ce que j'accepte de déléguer une partie de mon entreprise, de mon activité? Comme je vous avais dit, il y a la casquette du métier, puis il y a la casquette du chef d'entreprise. Et dans cette casquette de chef d'entreprise, il y a plein de sous-casquettes. Et parfois, pour certaines personnes, c'est difficile de lâcher et de déléguer certaines parties. Il y a la question du prix, en se disant, bah, je gagne déjà pas grand-chose comme argent, si je dois en plus en donner, je vais pas m'en sortir. Et aussi le fait de se sentir pleinement maître ou maîtresse de son bateau et de pas vouloir lâcher la barre à un autre capitaine. Je pense que c'est surtout des peurs qui nous emmènent là-dedans. Peur de manquer ou peur de ne plus avoir. Peur de manquer également. Donc en fait, c'est la peur du manque qui nous empêche de déléguer. Alors pour moi, la délégation, c'est une grande joie d'avoir des compétences que nous n'avons pas à la disposition de notre entreprise. C'est comme s'offrir le meilleur du meilleur, quoi. C'est comme se faire un immense cadeau en se disant « J'ai l'humilité de reconnaître que je ne peux pas tout faire, que je n'ai pas les compétences pour tout faire, et d'ailleurs, je n'ai même pas l'envie de vouloir apprendre les compétences pour tout faire. » Exemple, assez classique, où on délègue plus facilement, mais un site internet. On peut avoir l'envie d'avoir un merveilleux site et pas du tout l'envie d'apprendre à faire un site. C'est un métier en tant que tel. Ça peut marcher aussi sur des aspects administratifs, des aspects même d'une part de son métier. Je vais vous partager quelque chose où, en ce moment, dans les accompagnements, ce qui sort beaucoup à la fin, quand on a commencé vraiment à élaguer, à enlever des couches de l'oignon, c'est qu'il y a une difficulté, je trouve, assez forte en ce moment au niveau du collectif, de se connecter à la joie, de se connecter profondément à la joie en soi, de ne plus porter un fardeau, de ne plus se dire qu'il faut qu'on travaille sur soi, qu'on n'est pas assez, qu'il faut qu'on résolve ça, qu'on doit travailler à nettoyer les mémoires, les schémas, les croyances, tout ça. Et un gros oubli de la connexion à la joie. Et je l'observe dans beaucoup d'accompagnements. Et je le vis, moi, dans mon quotidien, où la joie est extrêmement importante et je m'y attelle chaque jour. Pour autant, je sais que c'est pas mon espace d'accompagner les personnes dans la joie. Je peux donner des exercices, ouvrir des horizons, voir un petit peu ce que ma guidance me dit pour les personnes sur qu'est-ce qui pourrait les accompagner dans cette voie-là. Mais je suis pas une accompagnatrice de la joie. Donc, ça me ferait extrêmement plaisir de déléguer cette partie-là à quelqu'un dont c'est la médecine, en fait. Et de me dire, bah moi j'accompagne les personnes jusqu'à un certain endroit, et ensuite quelqu'un d'autre va prendre le relais pour cette partie-là dédiée à la joie, que je trouve extrêmement importante, mais je sais que c'est pas mon espace. Ça, c'est aussi la délégation. Je ne considère pas que je résous tous les problèmes de toutes les personnes sur tous les plans. Je suis dans ma sphère, et je délègue, et je propose aux personnes, hein, si elles ne veulent pas collaborer avec d'autres personnes, bien sûr, ça leur appartient. Mais en tout cas, la délégation, elle peut aussi exister dans le cœur de métier. Et moi, ça me réjouit beaucoup de faire en sorte que les personnes que j'accompagne soient accompagnées par la meilleure personne possible sur cette thématique-là, la joie ou une autre. Ça peut marcher avec, j'ai pensé aussi sur la sexualité, sur la relation de couple, vraiment des thématiques qui sont importantes, que je peux percevoir en accompagnement, mais qui ont besoin de personnes expertes, et à mon sens que j'ai pu valider dans la confiance que je leur porte pour pouvoir ensuite les recommander. Donc, déléguer, c'est pas se couper du chiffre d'affaires ou perdre de l'argent. C'est permettre à la ressource argent d'aller à l'endroit où il est plus juste. Peut-être qu'on paiera moins longtemps d'accompagnement avec moi, mais si je sais que l'accompagnement sur la joie sera la meilleure chose pour la personne à l'instant T, je le recommande largement et avec un grand sourire. Et on peut même pousser en se disant « Allez, on va réfléchir à la commission d'apporteur d'affaires, des choses comme ça, pour que la balance soit équilibrée. Pourquoi pas ?» Mais c'est déjà s'offrir cette possibilité-là de co-créer des parcours au niveau de notre métier, alors peu importe notre métier, si on fait des savons et qu'on a envie de collaborer avec quelqu'un qui fait des portes-savons. On n'est pas obligé de faire des portes-savons. On peut être avec quelqu'un qui sait très bien faire les portes-savons et nous on fait les savons et on collabore ensemble. Et donc on coupe avec ce truc de devoir tout faire tout seul dans notre métier, mais aussi bien sûr dans les aspects de l'entrepreneuriat qui sont moins maîtrisables. La comptabilité, l'administratif, le financier, la communication, la gestion commerciale, l'informatique, tout ça peut être délégué. Et oui, ça coûte de l'argent. Mais regardons le ratio entre le temps qu'on passe à faire quelque chose qu'on ne sait pas faire versus qu'on paierait quelqu'un pour faire quelque chose qu'il va faire beaucoup plus rapidement que nous. En gros, si moi je passe 4 heures pour faire une tâche que je ne maîtrise pas et que mon heure est vendue 70 euros en moyenne. Donc 7 x 4, 240 euros, 280 euros, pardon, pendant 4 heures, que je facturerais moi si je faisais ce que je sais faire. Alors que peut-être je vais payer quelqu'un pour faire cette tâche-là, ça va lui prendre une heure et ça va me coûter 70 euros. Donc en fait, au lieu de perdre ce temps-là, je peux le gagner en vendant ce qui est moi et en payant quelqu'un qui aime le faire à le faire. Et quand je regarde la délégation comme ça, moi ça me remplit le cœur. Parce que je me dis, on est tous gagnants. Moi je suis dans ce que je sais faire et j'ai plus d'espace pour le faire et à la fin j'ai un produit fini, un site, un bilan comptable, une gestion des ventes, impeccable, beaucoup mieux fait que ce que j'aurais pu le faire. Et en plus, j'ai passé du temps à faire ce que j'avais envie de faire, et je rémunère quelqu'un qui aime faire ce qu'il fait. Est-ce que c'est pas formidable, en fait? Est-ce qu'on n'est pas tous et toutes gagnants sur ce mode opératoire-là? Donc, déléguer, c'est aussi couper la solitude chez l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que ce qui va se passer dans la transaction d'expertise, il va aussi se passer tout l'échange qu'on va avoir avec la personne. Donc, toute la relation qu'on met en place avec ses collaborateurs, co-créateurs, coopérateurs, comme vous avez envie de les appeler, mais ces personnes avec qui on va œuvrer, on va échanger et donc on va faire rentrer de nouvelles intelligences, une nouvelle façon de faire. Ces personnes vont nous questionner, s'ils sont vraiment experts, qui sont dans le conseil, ils vont nous dire « Attends, t'as pensé à ça comme ça, mais attends ça, si tu regardes d'un autre prisme, tu veux que je fasse ça comme ça, mais est-ce que t'es sûr qu'on devrait pas le faire comme ça ?» Tout ça, en fait, ça va nous faire grandir dans notre posture de chef d'entreprise. Ça va faire grandir notre activité et ça va nous couper de ce sentiment de devoir tout résoudre seul constamment. Ça, hyper important. Hyper, hyper important. Quatrième possibilité de couper avec la solitude du chef d'entreprise, c'est de se faire accompagner. Être accompagné dans les espaces sur lesquels on sent qu'on a besoin de soutien. D'autant plus, vraiment d'autant plus, si vous êtes dans l'accompagnement, la thérapie, la guérison, le soin, tout ça. C'est extrêmement, j'ai envie de dire, dangereux d'avoir des thérapeutes qui ne sont pas eux-mêmes accompagnés, qui ne sont pas supervisés dans ce qu'ils sont en train de faire, pour ne pas avoir cette projection de notre propre problématique, névrose, mots, schéma, biais, tout ce qu'on veut, et d'être dans une posture d'accompagnant qui grandit en fait avec des mentors plus expérimentés. Mais également en tant que chef d'entreprise. J'accompagne des jeunes entrepreneurs, très jeunes, des gens qui se lancent, comme des entrepreneurs très aguerris. Et presque ce sont eux qui ont besoin le plus de ce soutien-là, de leur père, de leur PAIRS, d'autres entrepreneurs, parce que quand on avance et qu'on n'est plus dans les problématiques du début, eh ben, y a quand même ce miroir qu'on recherche sans arrêt pour se faire grandir. Je me souviens de mon premier patron quand j'étais en agence de communication événementielle, qui était un profil très... il avait fait le groupe Carrefour, il a monté sa boîte de communication, voilà, très boss comme on peut l'imaginer dans tous ces stéréotypes. Et lors de mon premier entretien individuel, il m'avait dit... je sais plus comment on est arrivé là, mais bref, il m'avait dit « Vous savez, moi je suis le seul qui n'a pas d'entretien individuel en fait. Donc je n'ai pas de miroir de est-ce que je suis un bon patron ou pas. » Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Qu'il puisse témoigner à moi, toute jeune, en plus j'ai commencé à travailler à 21 ans, toute jeune salariée, premier entretien individuel, que c'est une bénédiction en fait d'avoir un miroir de ce qu'on fait et de pouvoir avoir quelqu'un qui témoigne de nos forces et de nos faiblesses. Si c'est bien fait, bien évidemment, que si c'est pas dans le cadre de harcèlement et de diminuer l'autre ou d'être dans la manipulation, mais quand c'est juste, c'est un vrai cadeau, une vraie bénédiction. Et j'avais senti en lui cette pointe de je sais pas en fait, si je suis au bon endroit, si je fais correctement, et comment je vais me faire évoluer dans cette posture-là si personne ne me regarde en fait. Et pour moi, l'accompagnement, c'est ça, c'est d'être vu. C'est d'être vu dans ce qu'on traverse, d'être reconnu dans ce qu'on traverse, et aussi d'être soutenu pour évoluer, pour grandir, pour faire appel à cette intelligence collective, mais dans la micro-cellule de sa boîte, pas forcément sur des grandes thématiques qu'on pourrait partager facilement à un repas de famille, mais de déposer des choses vraiment intimes, proches de soi, nos plus profondes peurs, nos plus profondes inquiétudes, mais également, et vraiment, vraiment, ça c'est hyper important, de célébrer ensemble. De célébrer ensemble, d'autant plus si on n'a pas une cellule familiale soutenante, ou alors qui ne comprend pas, qui est soutenante, mais qui ne comprend pas pourquoi il y a besoin de célébrer le fait d'avoir réussi à mettre à jour son site internet tout seul, ou des bêtises comme ça, par rapport à l'extérieur, mais qui sont des vraies célébrations en fait intérieures. Et à mon sens, être accompagné, c'est pouvoir partager la joie, comme partager les peines, partager les questionnements, partager les nœuds qu'on a l'impression qu'ils sont inextricables, et puis quand on les partage, quelque part, rien qu'en les nommant avec quelqu'un qui nous permet de faire miroir, on arrive déjà à les dénouer. Donc ça aussi, c'est un grand moyen, peu importe sur l'espace, que ce soit l'espace du métier, d'avoir des pairs aussi qui nous aident, des mentors. Je suis céramiste et je collabore, j'échange régulièrement avec un autre céramiste qui me parle de son métier parce qu'il a plus d'expérience et qu'il a vécu d'autres choses. Ça me permet d'éviter des erreurs, ça me permet de me rendre compte que je ne suis pas le seul et la seule à vivre ce que je vis dans mon entreprise et dans mes problématiques de cuisson. Voilà, peu importe si c'est du métier ou si c'est de l'entrepreneuriat, en fait c'est notre individu qui est accompagné, notre être qui est profondément accompagné et qui est vu et reconnu dans ce qu'il est en train de traverser. Et ça, c'est tellement, tellement précieux de pouvoir s'offrir ce miroir-là. Et pareil, on peut se poser la question de l'argent, mais dans tous les cas, c'est du temps gagné. C'est de la fluidité accordée. C'est aussi quelque part du soin de soi, en fait. Du soin de soi, et c'est essentiel quand on est au service dans une entreprise, parce que qu'est-ce qui se passe quand on se met à son compte? C'est qu'on est au service de ses clients. On est au service de sa boîte pour répondre à des obligations et des impératifs. Quand est-ce qu'on se met à notre propre service? Quand est-ce qu'on s'offre ça? Ça aussi, c'est une thématique qu'on peut traiter dans un tout autre épisode de podcast, mais la solitude nous coupe de cette capacité, de cette possibilité de grandir, en fait. On va grandir peut-être plus dans la douleur. On va grandir en faisant des erreurs que 10 000 autres entrepreneurs qui étaient là avant nous auraient pu nous dire « Oui, celle-là, je l'ai fait. En fait, il fallait marcher à droite et pas à gauche. » Vous savez, c'est comme dans les Mario en disant « Non, mais là, il y a un piège, en fait. Il ne faut pas sauter à cet endroit-là dans le jeu vidéo. Il faut le contourner par le nuage et vous allez voir, ça va mieux se passer. » Évitons-nous ça. Donnons-nous ce soin-là de s'éviter les grandes erreurs, comme les parents qui disent à leurs enfants « Ah, tu sais, si tu fais ça, ça risque de te faire mal. » Ah oui, tu peux choisir d'y aller quand même, ou tu peux choisir de te dire « Bon, je vais écouter et puis peut-être pas reproduire l'erreur dans laquelle tout le monde a foncé. » Et puis c'est plus joyeux de couper cette solitude, de nourrir de vie son entreprise, que ce ne soit pas uniquement une machine à produire, à faire, à créer, à réussir, à rentrer de l'argent, que ce soit aussi un espace organique où on fait des rencontres, où on rit, où on partage, où on s'étonne, où on s'émerveille, où on discute sans but. Mais cette discussion-là, peut-être un mois, trois mois, six mois, deux ans plus tard, aura une résonance tout autre qui nous permettra d'évoluer dans notre entreprise, de faire évoluer notre boîte, ses offres et services, ou simplement sa destinée, sa destination. Donc ça, c'est à mon sens quelque chose que parfois on met un peu de côté en se disant « il faut que j'avance ». Mais avancer tout droit et seul, c'est quand même très raide, quoi. C'est très dur. Avancer ensemble et en profitant du voyage, c'est quand même un peu plus sympa. Ouais. Voilà ce que je peux vous partager de quelques idées sur plusieurs plans pour couper la solitude du chef d'entreprise. Si vous avez d'autres idées, d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez pas vraiment à me les partager sur Instagram, en DM, sur Facebook, de pouvoir continuer à échanger sur cette thématique. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lipreneur. Bye.